Journée finit bien sur Radio Lac
avec Benjamin Smadja.
Le Montreux Jazz Festival qui est à l'honneur aujourd'hui avec la programmation qui, ça y est, a été dévoilée. Pour en parler, programmateurs et programmatrices qui sont avec nous. Que de noms, que dire, par quoi on commence, je ne sais même pas, si ce n'est vous dire bravo. Tiens, je vais commencer avec une question très précise. À quel moment est-ce qu'on dit à Dionne Warwick, j'ai pensé à vous pour une salle de 1300 places?
Le plus tôt possible. On essaye de le faire justement pour essayer de la confirmer, de la sécuriser assez rapidement, parce que ça fait en effet partie des figures, des voix qu'on voulait présenter sur la scène du casino. Une voix qui est incroyable, des tubes à n'en plus finir. Donc voilà, le but c'est d'essayer de la convaincre et qu'elle soit prête justement à venir dans une petite salle de 1300 personnes, ce qui rend la chose encore plus incroyable.
Mais je rebondis juste, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'autre festival au monde ou presque Montreux qui peut se permettre ça. N'importe qui va dire ça à une légende comme Dionne Warwick, elle dit bah, vous êtes gentil mais vous reprenez votre salle et vous partez. Montreux, il y a une aura.
Mais parce que justement, on s'appelle Montreux, je pense. Et en effet, ça aide. On essaye justement de justifier ça. Je pense que la capacité du casino, cette salle-là qui est vraiment assez incroyable, c'est ce qui a fait pencher peut-être la balance et qu'ils ont voulu justement d'être d'accord de venir jouer.
Il y a une question aussi qu'on se pose, c'est il y a des duos chaque soir. Comment est-ce qu'on crée le duo parfait pour une scène à Montreux?
Alors parfait, je ne sais pas, ça dépend toujours. Parfois on a juste un sentiment comme ça, tiens, ça devrait bien aller ensemble. Et parfois il faut aussi avoir l'accord des artistes entre eux, ça dépend. Et si ça joue, ça joue. On prend aussi quelques risques parfois. Mais on essaie d'être créatif là-dedans, disons. Ça peut être un programme complémentaire ou de contraste. Donc ça, c'est à voir.
Et ce qu'on aime bien, justement, c'est quand le public, en fait, découvre le programme, de voir un petit peu des combinaisons d'artistes et de se dire « Ah ouais, je ne les aurais pas forcément vus ensemble. » Et en fait, on ne les voit pas ensemble, mais c'est là, c'est cette soirée qui va faire qu'elle colle hyper bien. Et ça, c'est toujours un peu une petite fierté, oui.
Et puis on sait maintenant qu'il y a plus que 900 places que dans la salle Stravinsky, sur la scène du lac. Mais est-ce qu'il y a des artistes qui ont refusé parce que c'était pas la scène mythique du Stravinsky et puis son acoustique phénoménale?
Et qui aussi?
Ouais, non, mais c'est vrai que non. Alors
non, n'est-ce pas. Mais non, mais on a eu plusieurs salles mythiques. Hein, c'est qu'on était au casino avant. Après, on a déménagé au 2M2C. Et après, on a fait un petit stade juste comme ça pour s'amuser. Donc, on nous suit, j'espère. Hein, et on tâchera de faire un endroit mythique de celui-là. On verra.
C'est vrai qu'on est toujours en contact avec les agents, avec les managers. Donc, on a essayé de les quand on leur présentait le projet. Ils disent, mais c'est assez incroyable de présenter une scène sur le lac avec une telle vue, en fait. Je pense que quand on habite un petit peu dans le coin, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a. Donc, on avait déjà fait l'expérience en 2021 avec la scène sur le lac. Donc, on voulait aussi, justement, recréer quelque chose de très spécial. Et je pense qu'en fait, à l'inverse, c'est pas que le Stravinsky, ça a toujours, c'est une salle vraiment aussi assez incroyable, mais il y a certains artistes qui ont voulu venir parce que le cadre était spécial sur la scène du lac.
Ça fait quoi quand on a la confirmation de Deep Purple, par exemple, de revenir là où, d'une certaine manière, tout a démarré? Je pense que, voilà, il y a Alice Cooper avant. Le seul qui aurait pu être au-dessus, c'est Frank Zappa, puisque tout s'est passé le même soir, mais il est moins disponible. Mais ça fait quoi, à part ça, quand on y va, quand on a la confirmation, quand on l'annonce?
Eh bien, bon, ils viennent quand même depuis un certain temps. On les connaît bien, vu ce qui leur est arrivé aussi. Et surtout, c'est un anniversaire aussi. Et les faire sur le lac, quand même près de l'endroit où tout ça s'est passé, ce qu'ils ont, eux, décrit, ça fait plaisir, eux aussi, je pense. Donc, ils n'ont pas dit non. Hein.
Comment a évolué votre métier depuis ces différentes décennies, parce que j'ai l'impression que le rapport qu'on a avec la musique, avec les artistes, a aussi beaucoup évolué. Avec les réseaux sociaux, on peut avoir un accès qui est très différent. Comment ça évolue de l'autre côté de ce miroir?
Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait moins de monde, évidemment. Il y avait moins de festivals. C'était pas un business comme c'était aujourd'hui, comme c'est aujourd'hui. Donc, les tournées étaient, il y avait plus de trous. Donc, les gens avaient plus de temps aussi entre deux. Et on avait un contact parce que il y avait peu d'agents, donc on se connaissait tous, enfin surtout Claude, le chef, je suis arrivée plus tard, mais on se connaissait plus personnellement, donc il y a eu cette création ce côté événementiel qui n'existait pas à l'époque, c'est aussi arrivé avec l'évolution technique. Donc on peut faire des choses aujourd'hui, des grands festivals, parce qu'il y a aussi la technique pour le faire. Les Beatles qui étaient au Shea Stadium avec 5 amplis, puis ils ne sont jamais entendus, puis ils ont arrêté. Aujourd'hui, ça peut le faire, hein. Donc, et tout le monde peut profiter du concert. Donc après, les relations, évidemment, il y a des nouveaux jeunes qui sont arrivés, des nouveaux styles musicaux qui sont arrivés. Et c'est là que Rémi et David interviennent, parce que moi, je fais partie des classiques, je boucle les classiques. Et eux, ils font les nouvelles tendances, voilà.
Donc c'est à vous qu'on attribue les Sting et autres Lenny Kravitz, et puis c'est à vous qu'on attribue peut-être des gens qui se sont fait connaître sur TikTok comme David par exemple.
On peut dire ça, je pense. On peut dire.
Bon, enfin, ils connaissent aussi leurs classiques, donc voilà.
On essaye d'être inspiré par aussi. L'autre génération, donc du coup on essaye de s'inspirer.
Parfois je prends des jeunes, puis ils ont raison, ils me conseillent parfois, et puis moi je leur dis tiens machin, voilà, et puis c'est très convivial comme ça.
Je vous pose très honnêtement la question, est-ce qu'on ne prend pas le risque dans ce métier de devenir un jeune ou un vieux con, disons les choses, c'est-à-dire, alors Deep Purple, ça c'est de la musique, c'est pas comme ce qu'ils nous font aujourd'hui, vous voyez ce genre de cliché?
Oui, tout à fait. On a un bagage qu'on traîne, hein, un boulet. Je pense que mes parents disaient probablement la même chose de ce que moi j'écoutais, Deep Purple, Led Zeppelin, etc. Évidemment, moi j'ai mon boulet que je traîne et j'ai des critères différents, et c'est pour ça que ils sont utiles, parce que moi, j'apprécierais peut-être moins. C'est normal. Enfin, c'est une autre manière d'entendre, de voir les choses. Moi, je suis plutôt old school. Donc, ça, je comprends. Et puis, d'autres choses, peut-être moins. Et ça, c'est eux qui interviennent là-dedans.
C'est je sais pas si on peut appeler ça la modernité, mais je pense que maintenant, il y a de moins en moins de genres, d'une certaine manière. Il y a de plus en plus de genres, mais il y a de moins en moins de genres. Si je peux parler.
Oui, le genre urbain, par exemple, regroupe beaucoup de choses.
Voilà, et de manière générale, de toute façon. Et je pense que, d'un côté, on catégorise de moins en moins les styles. Et ça, c'est aussi ce qui fait... Il n'y a plus le rock, le rap, l'électro. Maintenant, tout se mélange. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est très intéressant. Et c'est aussi ce qu'on essaye justement de présenter aussi dans une programmation. C'est de montrer qu'il y a différents styles, différentes époques, tous s'influencent. Donc voilà, ça c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas à Montreux, et de présenter ces différents styles.
Mais il y a quand même cette volonté d'avoir ces influences africaines. Vous avez quand même présenté un certain nombre d'artistes qui ont ces influences africaines.
Ouais, absolument. Mais parce que je pense que ça fait partie aussi d'un mouvement musical. Alors c'est pas nouveau, mais qui est en train d'émerger. Donc pour nous, ça nous semble très important de pouvoir les présenter au festival. On aurait pu attendre, 5 ans que ça soit peut-être un peu plus grand public, mais on sent que c'est maintenant que c'est en train d'émerger. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est important de les présenter.
Cette programmation donc du Montreux Jazz Festival qu'on va retrouver en ligne. On pourrait vous parler de chaque artiste, mais le problème, c'est que voilà, on n'a pas une semaine. Mais moi, il y a une artiste. Il y a deux choses dont j'aimerais parler. C'est André 3000, parce que c'est le projet quand même un homme et sa flûte. Hein, littéralement, faut quand même arriver à le vendre ça. Et Célassou, parce que Célassou, elle est là depuis 15 ans. Elle traverse les époques. Elle fait son bonhomme de chemin. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Je trouve ça vraiment dramatique, quoi. Donc, on va peut-être commencer avec ce projet assez fou d'André 3000.
C'est pour qui?
André 3000. Alors non, mais qui était déjà venu à l'époque avec Outkast, que ça soit avec Outkast ou en tant que juste artiste, André 3000, ça fait partie de ces personnes-là qui mélange un petit peu justement les styles, qui arrête pas de remettre justement en question, qui vit avec son temps, et à chaque fois c'est des projets qui sont différents, qu'on aime pas, mais qui sont quand même très spéciaux. Qui va faire ça maintenant en 2024? Si c'est pas André 3000, je sais pas qui. Donc là, surtout dans un cadre comme ça du casino, en partie assise dans une salle de 1300 personnes, moi ça me semblait complètement convenir à l'endroit.
Surtout qu'il a un peu quitté le business, et sorti de là. Et il se trouve qu'on l'a croisé, il s'en rappellera pas, mais on l'a croisé avec Claude une fois dans un restaurant à Londres. Et puis j'avais une cassette de Marvin Gaye. Puis je dis à Claude, j'avais une vidéo, je lui dis Claude, donne-lui ça. Puis et il lui a donné, puis lui il était tout remué de ça. Il a une culture musicale qui va plus loin que juste un style. Donc ça se voit. Et puis j'ai tout de suite aimé son projet d'ailleurs. Et c'est intéressant. Et je trouve qu'il faut donner une chance aux artistes qui sont éclectiques et qui prennent des risques.
C'est ce qui caractérise aussi le Montreux Jazz Festival, hein, de Justice à Santa, par exemple, aussi pour parler d'une jeune artiste qu'on entend beaucoup à la radio, et c'est pas Lena qui dira le contraire, mais elle a un champ musical incroyable.
Oui, puis surtout elle sait chanter, donc voilà. Non, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont des bonnes voix et qui savent l'utiliser. C'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Donc voilà, et c'est des vrais artistes, voilà, qui savent s'exprimer et qui prennent des risques justement. Avec leur voix, avec leur instrument et le type de chanson qu'ils font.
Tout dit, je ne peux rien rajouter.
Moi j'aurais une toute dernière question, c'est comment on fait pour ne pas être blasé dans le métier que vous faites, quand on programme autant de gros artistes sur des scènes aussi importantes dans un des festivals les plus en vue du monde, il n'y a qu'à regarder la liste des sponsors, voilà, il y a le monde entier qui apprécie le Montreux Jazz Festival, on n'est jamais blasé?
Non. Franchement, on n'est pas blasé déjà par l'endroit où nous sommes. On regarde toujours les couchers de soleil sur le beau lac, hein, et ça, on peut pas se blaser quand l'art est là et que l'artiste est bon. Il nous touche, donc ça va directement dans les tripes, pour ainsi dire. Ça passe pas par la tête nécessairement, et ça nous touche directement. C'est un des arts les plus directs qu'on puisse avoir. S'il est bon, il est bon, et ça nous touche, et puis ça marche.
Il y a tellement de projets maintenant, il y a tellement de musique aussi, hein. Ça n'arrête pas. Donc en fait, il y a tellement de choses qui se renouvellent de jour en jour, qu'en fait on a toujours quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est que ça soit des nouveaux styles, des nouvelles tendances et autres, tous les jours c'est différent. Donc ça, c'est quand même assez, je pense, qui aide justement à pas être blasé, c'est qu'il y a toujours quelque chose vers lequel on peut découvrir toujours quelque chose de nouveau. Ouais.
Il y a juste un truc qui me fait toujours plaisir, c'est quand je passe dans la salle et je vois la réaction du public quand l'artiste a réussi à faire le contact. Et ça, c'est tellement, même quand on connaît très bien l'artiste, on l'a vu 10 fois, quand on est là-dedans, c'est contagieux et on est juste hyper content. Voilà.
C'est vrai qu'on parle de programmation vraiment là sur le papier, mais après, quand on est dans la salle, quand on est pendant le festival, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce métier. C'est aussi pour voir l'aboutissement de ce travail en amont et de créer vraiment des moments spéciaux entre le public et l'artiste. Nous, on est là pour faciliter ça. Et quand on peut vivre vraiment des moments spéciaux de communion, c'est là la raison de notre travail.
Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Du 5 au 20 juillet, on vient voir le résultat de votre travail à Montreux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac,
la journée finit bien.